J'ai envie de vous poser une question ce matin. Vous allez me répondre ou pas, c'est vrai que vous êtes assez timide. Comment vous sentez-vous ce matin? Ouais. Je suis content pour vous. C'est une question que j'ai envie de vous poser, parce que je me la suis posée. Vous savez, quand on prêche, j'ai toujours dit, d'abord on doit se prêcher à soi-même, puis on doit répéter ça aux autres. Moi, j'aime bien vivre ce que je prêche. Alors, comment vous sentez-vous? Êtes-vous vraiment en grande forme? Êtes-vous heureux? Êtes-vous triste? Mélancolique? Découragé? C'est toutes ces formes d'état d'âme que nous pouvons avoir en tant que chrétien, surtout en tant qu'être humain. On peut être aujourd'hui heureux, demain on peut être triste, et ainsi de suite. Aujourd'hui triste, demain heureux. Aujourd'hui on est mélancolique. Le chrétien, comme le non-croyant, passe par ces différentes phases dans sa vie. Et comme je le dis bien souvent, il n'y a pas honte à reconnaître que nous n'allons pas bien. On a toujours, et c'est vrai, c'est souvent cette réflexion avec le Seigneur, ça va toujours, mais je l'ai toujours dit, c'est pas vrai ça. On passe par toutes sortes de moments dans notre vie qui ne permettent pas toujours d'être au top. Ne soyons pas des chrétiens caméléons. Vous savez, le caméléon, vous le mettez quelque part et il prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Alors ne venons pas ici à l'église faisant croire que ça va bien quand ça ne va pas. Si ça ne va pas, ben on peut le dire, il n'y a pas de honte et on peut prier pour vous. C'est ça au fond que cela sert. La communauté chrétienne, la communion fraternelle, c'est de pouvoir prier les uns pour les autres. Et parfois c'est une forme d'orgueil que le chrétien a de dire « mais ça va bien ». Mais mon frère, ça va aller. Mais non, soyons vrais. On ne peut pas toujours être en forme. Il y a des moments où il y a des passages à vide qui sont causés par tous les aléas de la vie, par tout ce qui nous entoure, par tout ce que nous vivons, par tout ce que nous subissons. C'est vrai que quand nous regardons la situation mondiale, celui qui est un peu déprimé, parfois, il pourrait se mettre une balle dans la tête. Hein? Quand nous voyons tout ce qui se passe, on parle du Covid, on parle du réchauffement climatique, on parle des inondations, et notre frère est là bien placé pour le dire. Et on parle de beaucoup de choses qui nous sont arrivées pendant cette année. Et ça a touché des chrétiens. Et voilà que tous ces problèmes de la vie peuvent marquer notre vie chrétienne. Et nous n'avons pas le droit d'accuser ce frère ou cette sœur, de lui dire « mais enfin, c'est pas des bons chrétiens, comment est-ce possible d'être comme ça après autant d'années ?» On ne peut pas accuser ces personnes-là d'avoir perdu leur relation avec Dieu s'ils passent par un moment de découragement. Bien sûr, il ne faut pas s'y installer et se complaire dans le découragement, parce que parfois il y a des personnes qui adorent qu'on les plaigne. Et ça va, non, ça ne va pas, je ne suis pas bien. Mais non, c'est vrai, on peut le dire une fois, mais on a aussi cette volonté en nous qui nous permet de remonter le moral et aussi, surtout, la force que le Seigneur peut nous donner. Il se peut que ce frère ou cette sœur se pose des questions sur la foi ou sur les promesses de Dieu. Sur le pourquoi de tant de prières qui n'ont pas été exaucées. Et je peux vous dire que personnellement, ah oui, il y a des prières qui n'ont jamais été exaucées. Je prie toujours pour ça. Et parfois, on se pose la question. Parfois, peut-être un moment, le Seigneur nous dit, maintenant, tu arrêtes de prier pour tel ou tel sujet, parce que moi, j'ai un autre plan pour toi, comme l'apôtre Paul, quand il a prié pour le problème qu'il avait. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Mais tant que le Seigneur ne nous a pas dit ça, ou qu'il ne nous a pas montré le chemin de sa volonté, mais continuons à prier. Il peut se poser un tas de questions, ce chrétien, toutes sortes d'échecs, de doutes, tout ce qu'il a raté dans sa vie. Et bien sûr, nous avons tous raté quelque chose dans notre vie. Et bien sûr, quand on est chrétien et que l'on croit à la puissance de Dieu, c'est encore plus dur d'accepter des échecs. Et je peux en témoigner personnellement. C'est très dur d'accepter des échecs quand on croit à la puissance de Dieu. Ça peut nous tourmenter, nous faire perdre le sommeil, voire parfois perdre la foi, ou remettre en cause notre foi. On est parfois enfermé comme dans une prison à cause de toutes ces angoisses qui nous atteignent. Nous pouvons vivre des angoisses profondes. Notre Seigneur Jésus a connu toutes sortes de tentations, frères et sœurs. Des moments durs dans sa vie d'homme sur cette terre. Et bien sûr, il n'y a jamais succombé, mais il a pu compter sur la force que le Père lui communiquait pour ne pas chuter. Nous le voyons dans le désert tenté par le diable. Il est passé par des moments difficiles pendant 40 jours, en présence de Satan, qui, par plusieurs manières, a essayé de le faire chuter. Et le Père est obligé, au bout de 40 jours, d'envoyer des anges pour l'aider et le soutenir. Quel chemin difficile il a dû affronter, lui, le Fils de Dieu. Et que dire de lui quand il se trouve dans le jardin de Gethsémané? Quand il est en train de prier, sans l'aide de personne, parce que ses disciples l'ont abandonné, ils se sont endormis. Il connaissait le chemin qu'il devait parcourir. Il savait bien ce qu'il attendait. Il connaissait le but pour lequel il était venu sur la terre. Et il savait bien que ce n'était pas une partie du plaisir. Parce qu'on se dit, ouais, mais c'était le Fils de Dieu. Non, le Fils de Dieu a dû lutter. Il a dit, si c'est ta volonté, mon Père. Et ses angoisses, il a transpiré des grumeaux de sang. Et qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, lui, le Fils de Dieu. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Imaginons un moment, ce moment difficile et dur. Et c'est vrai qu'il s'est posé la question, je vais jusqu'au bout? Oui, le Fils de Dieu, oui, il s'est posé cette question-là. Mais il a été jusqu'au bout. Mais le Père a dû le fortifier dans ces moments difficiles. Oui, frères et sœurs, notre Sauveur a connu des moments difficiles, presque incompréhensibles pour nous humains. Lui, le Fils de Dieu, connaître de telles situations. Alors nous, simples humains, à plus forte raison, nous pouvons traverser des moments difficiles, ou pas comparables comme notre Sauveur. Et nous n'avons pas à avoir honte d'avoir ces moments difficiles. Et comme pour son Fils, Dieu permet peut-être parfois qu'un ange vienne nous fortifier, je ne sais pas. Ou un frère ou une sœur de la communauté qui est inspiré pour nous aider. Ou la parole de Dieu, cette parole que nous lisons couramment, que tout cela vienne nous encourager et nous fortifier dans des moments difficiles. Je voudrais ce matin prendre l'exemple d'un homme de Dieu, un homme de Dieu extraordinaire, que nous voyons dans sa parole, qui a complètement perdu les pédales à un moment donné. Il a été complètement vaincu par le découragement. Il s'est posé un tas de questions. Il s'est demandé, est-ce que je me suis trompé dans ce que j'ai prêché? Ce texte, nous le trouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7. Chapitre 7, verset 18. Luc 7. Jean-Baptiste, fut informé de tout cela par ses disciples. Il l'appela deux, qu'il envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés vers Jésus, ils dirent cela. Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais. Et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Que dire de ce texte, frères et sœurs? Ça peut paraître choquant. Choquant de voir un grand prophète comme Jean-Baptiste, le dernier des grands prophètes, quelque part de l'Ancien Testament, d'avant la venue de Jésus. C'est choquant de voir un homme, me direz-vous, se comporter ainsi. Cet homme a eu un ministère puissant. Nous voyons des foules entières venant à lui pour écouter son message, des foules entières qui se convertissent, qui prennent ensuite le baptême de la repentance. Il n'avait peur de personne. Il contredisait les hommes religieux. Il disait les quatre vérités au roi Hérode. Un ministère puissant. Il a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il a tressailli quand Marie, la mère de Jésus, est allée vers sa maman, Élisabeth. Elles étaient toutes les deux enceintes. L'une portait le prophète et l'autre portait le sauveur. Et l'enfant Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, a tressailli d'être en contact avec Jésus. Il était rempli de l'Esprit-Saint, de puissance. Il a annoncé la venue du Messie. Il a préparé le chemin de Jésus. C'est le seul prophète qui a eu le privilège de rencontrer Jésus, de présenter Jésus à la foule. C'est le seul prophète qui a eu le bonheur de baptiser Jésus. C'est le seul prophète qui a entendu des paroles fabuleuses venues du ciel, de la bouche même du Père, qui disait, qui présentait Jésus comme le Fils de Dieu. Mais quel ministère béni cet homme a eu ! Qui ne rêverait pas, en tant qu'évangéliste, de connaître un tel succès, une telle gloire dans son ministère, de voir Jésus face à face comme il l'a vu ? Et puis, il y a toujours un petit grain de sable qui apparaît dans la vie de quelqu'un. Le petit grain de sable, c'est peut-être le mot trop dit toujours. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Et pourtant, Jean-Baptiste ne pouvait pas se taire de voir le roi Hérode se comporter d'une manière immorale. Le roi Hérode avait pris la femme de son frère et Jean-Baptiste lui en fait la remarque qu'il n'était pas bon de vivre dans l'adultère, et c'était le mot de trop, et Jean-Baptiste se retrouve en prison. Bien sûr, ce n'était pas une prison 4 étoiles, c'était des cachots sombres, humides, obscurs, et voilà notre prophète qui se retrouve, éloigné de tous, en prison. C'est la fin d'un beau rêve, c'est la fin d'un ministère, et il ne comprend plus rien. Est-ce qu'il est dans le bon ? Frères et sœurs, parfois nous pouvons nous trouver dans la même situation que Jean, avoir eu des moments de bénédiction, avoir eu des moments où tout allait bien. Et puis, il y a un grain de sable qui vient sur notre chemin, et plus rien ne va. Tout va bien dans notre famille, dans notre vie. Dans tout ce que nous faisons, tout roule. Et puis, à un moment donné, ce grain de sable survient, plus rien ne va. Notre foi vacille, parce que c'est la maladie qui nous attend, c'est la mort d'un être cher, c'est la perte d'un emploi. Il y a tant de choses qui peuvent nous arriver, et puis plus rien ne tourne, et nous nous sentons comme en prison. Et nous sommes chrétiens pourtant. Nous avons cru à la parole de Dieu. Nous avons vu des miracles peut-être. Nous avons vu des promesses de Dieu se réaliser. Et plus rien. Nous sommes secs. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Jean, si je peux dire, ne savait plus à quel saint se vouer. Il a présenté quelqu'un qui l'a cru être le Messie, et puis peut-être il se disait, il va y se passer quelque chose dans ma vie. Non, c'est Jésus qui passe au-devant lui, et lui se retrouve vraiment dans un état déplorable dans cette prison. N'avons-nous jamais vécu des moments difficiles, cette situation comme Jean, en tant qu'enfant des dieux, avoir vécu des choses glorieuses, bénies, et se trouver ensuite dans une situation difficile, tout nous tombe dessus. Et frères et sœurs, à ce moment-là, nous nous surprenons à douter de la parole de Dieu, à douter des promesses de Dieu, à ne plus croire. Nous pensons que nous nous sommes trompés. On se dit, oui, finalement, toutes les religions se valent, le christianisme, le bouddhisme, ou tout n'importe quoi, ça se vaut finalement. Hein? Et nous doutons de plus en plus. Que faire? Malheureusement, quand le chrétien se trouve dans une telle situation, une des premières choses qu'il fait, c'est de perdre les pédales. Il ne prie plus. Il ne lit plus la Bible. Il se coupe de la communion fraternelle. Il rumine dans son coin. Malheureusement, parfois, en tant que chrétien, nous agissons ainsi. Nous abandonnons tout parce qu'on dit « ça ne sert à rien ». De toute façon, Dieu ne m'écoute pas. Regarde dans quelle situation je suis. Voilà comment on pourrait, et certains chrétiens, j'espère que ça, vous ne le faites pas si vous arrivez dans une telle situation, mais parfois, on abandonne tout parce qu'on se dit que ça ne sert plus à rien. Et c'est la plus mauvaise des attitudes que nous pouvons avoir, frères et sœurs. Et que fait Jean ? Eh bien, il ne peut pas faire grand-chose, car il est en prison. Il n'a qu'une seule solution, envoyer ses disciples qui viennent encore le visiter auprès de Jésus, afin de voir s'il a été bien conduit dans la vérité. Voilà, frères et sœurs, l'attitude que nous devons avoir. Nous devons, au lieu de rester dans notre coin et ruminer et broyer du noir, aller vers Jésus. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question qu'étudient Jean. Et peut-être c'est une des questions qui peut parfois nous tourner dans la tête. Me suis-je trompé? Ai-je été berné quand on m'a dit que Dieu était tout-puissant pour m'aider? Et Jésus, à ce moment-là, d'accomplir plusieurs miracles. Nous voyons Jésus accomplir beaucoup de miracles devant les disciples de Jean pour bien prouver qu'il était bien le Messie et qu'il était bien celui qui devait venir. Et il le dit, allez dire à Jean tout ce que vous avez vu. Oui, frères et sœurs, si nous sommes dans un désert spirituel, ne nous enfermons pas dans ce désert, mais allons vers Jésus. Allons lui parler de notre situation spirituelle. Et si vous continuez l'histoire de Jean, nous voyons que Jésus ne critique surtout pas ce prophète. Il ne le blâme pas, mais il dit du bien de Jean. Quelques mots. Au verset 28 du texte que nous avons lu, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. » Jésus reconnaît les qualités de son prophète. Il sait que son prophète passe par des moments difficiles, mais il reconnaît en lui quand même une grandeur d'âme spirituelle d'avoir eu le courage de venir vers Jésus et lui dire « Seigneur, je ne me suis trompé ou tu étais bien celui qui devait venir ?» Imitons Jean quand nous sommes dans des moments difficiles. Vous savez, frères et sœurs, je crois que Jésus agit de la même manière qu'il a agi pour Jean si nous venons vers lui. Il sait reconnaître nos qualités, il sait reconnaître ce que nous avons fait pour lui, il sait reconnaître le travail et la peine que nous nous sommes donnés pour son service et il est là pour nous encourager. Frères et sœurs, je me suis déjà retrouvé, et beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, retrouvé dans un désert spirituel. Et Dieu a utilisé des personnes pour me remonter le moral. Je me rappelle, il fut un temps où nous étions vraiment fort bas spirituellement dans notre famille. Et pendant plusieurs cultes, le Seigneur nous parlait. À tel point qu'on se disait, mais le pasteur, il vit chez nous, quoi, parce que chaque dimanche, les messages nous concernaient. C'était vraiment des points précis, des réponses à nos questions. Frères et sœurs, si nous allons vers Jésus, il saura utiliser les paroles et les personnes qu'il faut pour pour nous remonter le moral afin que nous ne restions pas dans un état spirituel déplorable comme j'en étais. Je me rappelle, il fut un moment où nous avons passé dans notre famille quelque chose de dramatique. Nous avons connu un suicide d'un membre de la famille qui était chrétien. Et parfois là, ça vous déconcerte. Comment est-ce possible que ça peut arriver? Et j'étais vraiment on était complètement anéanti de ce qui venait de nous arriver. C'était mon beau-frère, et ma belle-sœur voulait parler au pasteur. Elle dit, mais conduis-moi, je vais essayer de lui parler pour un peu savoir ce qu'il faut faire dans ce moment-là. Et je l'attendais dans le hall de l'église, et j'étais assis. Et il y a une Bible qui traîne là, et puis je prends la Bible, je l'ouvre. Et le Seigneur, vous savez, frères et sœurs, le Seigneur nous parle. Quand le Seigneur vous parle, je n'ai pas entendu une voix qui est venue du ciel comme ça, mais quand le Seigneur vous parle par sa parole ou par dans un culte ou par une personne, vous savez reconnaître sa voix. Et vous savez que c'est à vous qu'il vous parle. Et j'ai pris la Bible et je suis tombé sur un verset dans l'évangile de Luc. Il parlait à Pierre, il disait « Simon, Simon, fais attention ». Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour se séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Wow. À ce moment-là, j'ai senti que c'est Dieu qui me parlait. Il dit, oui, vous êtes secoué par l'ennemi. Votre foi est remise en question. Vous ne savez plus où tourner. Mais le verset 32... m'a fait un bien fou. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Frères et sœurs, ces paroles pour moi étaient un réel réconfort et pour ma famille dans ces moments terribles. Et si ce matin vous passez par des moments difficiles, à la place de Simon, mettez votre nom. Et il dit, fais attention. Satan vous a réclamé, Satan nous réclame chaque fois pour nous passer au crible. Mais sache que je prie pour toi. Chers amis, frères et sœurs, le Seigneur ne nous délaisse pas quand nous passons par des moments difficiles. Le Seigneur ne nous délaisse pas quand notre foi défaille. Le Seigneur ne nous délaisse pas quand nous passons vraiment par le creux de la vague. Sachez qu'en ce moment, Jésus intercède pour nous. Romains chapitre 8 nous dit, et que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne vous donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si ce matin, tu te dis, comme Jean, es-tu celui qui doit venir, Jésus, ou je dois attendre un autre ? Sache que Jésus prie pour toi en ce moment. Jésus prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Il est à la droite de Dieu, il intercède. Il intercède pour toi, afin que tu puisses remonter la pente, afin que tu ne défailles pas. Frères et sœurs, si personne ne prie pour vous, il y a au moins un qui prie pour toi, c'est Jésus. Et si toute l'Église prie, c'est encore mieux. Alors, c'est vrai, prions les uns pour les autres. Et si nous nous trouvons dans cette situation comme Jean, es-tu celui qui doit venir ? Si nous sommes dans le doute, si nous sommes dans l'angoisse, eh bien, tournons nos yeux vers Jésus, comme Jean l'a fait. Ne restons pas dans cette situation-là, mais sachons que Jésus prie pour nous, pour nous réconforter. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es là. Seigneur, je ne connais pas la situation personnelle de mes frères et sœurs, Seigneur. Je ne sais pas s'ils passent par des moments difficiles comme Jean, mais toi, tu les connais. Et toi, tu pries pour nous, Seigneur. Et nous voulons prier les uns pour les autres ce matin afin de nous fortifier, afin de nous encourager, afin que notre foi ne défaille pas. Merci, Seigneur, pour ton amour. Amen. C'est vrai que nous pouvons douter de Dieu. C'est vrai que nous pouvons douter de Dieu. Parfois, nous demander « Où es-tu, Dieu ?» Pas encore longtemps, j'avais un moment difficile et je disais à mon épouse, j'étais fort angoissé, je dis « Mais il est où, Dieu ? Il est où ?» Et elle m'a dit « Il est là. Il est là, c'est vrai. Il était à côté de moi et je ne le sentais pas. » Il y a des fois qu'on ne sent plus parce qu'on a perdu les repères, on a perdu notre vision sur le Père. Mais il est là. Il est là pour nous relever et pour enlever nos angoisses. Nous allons chanter « Tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie ».
C'est lui.